Salut, c'est Tim de Nantes. Je vous appelle. Ce matin, j'ai écouté France Inter, et notamment la météo qui était présentée avec Air France, blablabla, Air France, en voulez-vous, avec élégance. Rappelons ici donc que cette élégance en forte croissance, qui est l'élégance des riches, qui nous coûte 2 à 4% de gaz à effet de serre. À quand une météo présentée par le GIEC? Merci.
Oui, bonjour, Geneviève à Pouilly-les-Vignes. Je viens d'entendre le répondeur téléphonique. Une auditrice expliquait les conditions d'élevage des perdrix et des faisans destinés à la chasse. Afin de contrer cette ignominie et vu les conditions d'élevage de ces animaux, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Alors je vous suggère, comme moi, de refuser systématiquement de manger du gibier ou du foie gras. C'est un petit geste, mais multiplié, il peut faire beaucoup, comme le colibri. Bonne journée à vous tous. Au revoir.
Bonjour, Dan de la Martinique. J'aurais voulu savoir pourquoi le prix des vols transatlantiques n'inclut pas directement une compensation carbone. Au revoir.
Bonjour, c'est Yann de Saint-Brieuc. Nous sommes en train, ici, avec un collectif, de défendre un site. Nous avons des plantes endémiques et on est en train de faire le point tous ensemble à savoir comment est-ce qu'on pourrait agir pour préserver le lieu. Il s'agit du fort de Surville, dans Groix. À bientôt, salut.
Bonjour la Terre au Carré, Marc de Langueux en Bretagne. Je vous appelle, j'entends assez souvent sur le répondeur des personnes qui se plaignent, des personnes qui mangent de la viande. Je pense que ces personnes qui se disent être véganes et vouloir respecter la nature ne comprennent pas réellement en fait ce qu'ils mangent, parce que la plupart de la base de leur aliment, c'est quand même la noix de cajou. La noix de cajou qui n'est pas élevée sous nos latitudes, mais plutôt au niveau des chaleurs tropicales. Donc il faut une empreinte carbone assez importante avec les transports en avion ou en bateau pour pouvoir ramener tout ça ici. La manière de la transformer. Si jamais on consommait plutôt de la viande bien élevée par des éleveurs locaux, fait de manière traditionnelle et non des élevages en grande quantité. Bonne journée, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe de La Terre au Carré. Je m'appelle Anaïs, je suis pépiniériste fruitière. Donc je produis des arbres fruitiers, des petits fruits en Bretagne, à Corcelles, dans les Côtes d'Armor. Je vous appelle pour faire un petit message en disant que mes plantes sont très belles. Elles sont cultivées bio et il n'y a pas de petites billes jaunes et bleues dans les pots. Voilà, petit message à tous les pépiniéristes qui m'écoutent. Merci et merci beaucoup pour vos émissions.
Et merci pour vos petits et grands messages que nous recevons toujours avec beaucoup de plaisir sur le répondeur. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler à ce numéro que vous commencez maintenant à bien connaître, le 01 56 40 45 45. C'était une annonce très attendue dans la communauté des astronomes. Elle est tombée jeudi dernier à 15h. La première image de Sagittarius A étoile, le trou noir situé au centre de notre galaxie. Cette image fait suite à la publication en 2019 de la première image d'un trou noir M87 étoile situé dans une autre galaxie, Messier 87, qui avait fait, vous en souvenez, le tour du monde et la une de tous les médias. L'image donc de la semaine dernière, un air de déjà-vu, mais elle constituait la première preuve visuelle directe de la présence d'un trou noir supermassif en plein cœur de la Voie lactée. Comment cette image a-t-elle été réalisée? Que montre-t-elle exactement et qu'apporte-t-elle à la connaissance scientifique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités aujourd'hui en duplex de Marseille, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble, l'astronome Frédéric Gut. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Luminet, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire d'astrophysique de Marseille. Et vous allez publier à l'automne les trous noirs en 100 questions chez Taillandier. Frédéric Gut, vous êtes directeur adjoint de l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, qui a participé au projet de l'Event Horizon Telescope, qui a donc permis l'image de trous noirs de la galactée, de la Voie lactée. Et on va se retrouver donc dans un instant pour en parler. Vous allez répondre aux messages qui arrivent sur la page de l'émission, sur les réseaux sociaux et l'appli France Inter, avec bien sûr vos messages vocaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, on passe au vert.
Est-ce que vous vous souvenez de l'usine de chips éclairée toute la nuit quand on était dans la Drôme? Elle embêtait bien l'agriculteur chez qui on était. J'ai eu la direction de Bretz, la marque de chips, propriétaire de cette usine.
On aura donc des nouvelles tout à l'heure à 14h30. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Charles de Cilia, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, avec Sofiane Aktib à la technique.
Mathieu Vida, la Terre au carré, sur France Inter.
Pour mieux tenter de se faire comprendre, certains scientifiques le comparent déjà à un gigantesque donut.
Astronomers have now unveiled the first image of a supermassive black hole.
C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de l'homme que l'homme voit directement un trou noir.
This is a picture of the supermassive black hole at the center of our Milky Way galaxy.
L'objet le plus mystérieux de l'univers, prédit par la théorie de la relativité d'Albert Einstein.
Today, the Event Horizon Telescope.
Aujourd'hui, le télescope Event Horizon est ravi de partager avec vous la première image directe du trou noir géant au centre de notre galaxie, Sagittarius A.
Voilà, l'ensemble des médias à l'unisson donc de cette image révélée jeudi dernier, la première du trou noir central de notre Voie lactée, Sagittarius A étoile, un monstre astronomique de 4 millions de masses solaires. Et on commente cette image historique cet après-midi donc avec nos invités, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l'astronome Frédéric Guth. Alors les premiers commentaires, Frédéric Guth, qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux après la publication de l'image, ont été assez critiques finalement, puisqu'on parlait beaucoup de flou caractérisant donc l'image. Est-ce que vous avez été agacé par ces commentaires?
Oh oui, un peu, parce que c'est, en fait, c'est l'image astronomique avec la résolution angulaire la plus élevée qui ait jamais été produite. Donc évidemment, dire que c'est flou, c'est un peu vexant. Maintenant, je comprends effectivement, quand on voit l'image, on n'a pas l'impression qu'elle est super nette, mais c'est parce qu'on zoome, tellement pour voir vraiment le trou noir et son environnement proche, qu'à la fin, on observe quelque chose qui est vraiment à la limite de ce qu'on peut observer, et ça donne cette petite impression de flou. Mais il faut pas se tromper, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement petit dans le ciel qui a été observé.
Et est-ce qu'un jour, on pourra avoir une image plus nette ou pas, ou c'est le max que vous pouvez faire?
Alors, en termes de résolution angulaire, on va pouvoir augmenter encore, peut-être aller de 50%, quelque chose comme ça. On espère quand même obtenir assez rapidement des images de meilleure qualité, parce qu'on va rajouter des observatoires dans le réseau EHT, là que Mathieu avait mentionné juste avant. Et donc, on espère augmenter la qualité des images. Par contre, on va pas brusquement gagner un facteur 10 qui permettrait de voir des détails extrêmement fins, malheureusement.
Frédéric Guth, alors vous avez aussi souffert d'un élément de comparaison, parce qu'on a vu quand même l'image en 2019 de l'autre trou noir, M87 étoile, et l'image paraissait plus nette finalement que le trou noir de notre Voie lactée. Ça a été un petit peu aussi l'élément de comparaison qui a fait qu'il y a eu ces critiques là qu'on a lues.
Ah, je sais pas, peut-être, oui, j'avais pas entendu ça, oui, la comparaison avec M87. J'avais plutôt entendu le fait que, en fait, les deux images se ressemblent, mine de rien.
Oui.
D'accord, on voit un anneau, la palette de couleurs qui a été choisie est similaire, donc un anneau jaune orangeâtre comme ça.
Oui.
Et certaines personnes ont pu se dire tout ça pour obtenir à peu près la même image, mais en fait le fait que ces deux images se ressemblent, c'est quasiment l'information la plus importante. Pourquoi? Parce que d'abord, ça valide les observations. Vous voyez, on pourrait toujours se dire que ce qui a été observé dans M87 il y a 3 ans, en fait, c'était un truc extrêmement particulier, assez tordu, une configuration très spéciale. Mais en fait, comme on l'observe dans un autre objet, à peu près la même chose, bon, ça nous montre que effectivement, ces observations sont correctes, elles sont réelles, et effectivement, l'environnement proche d'un trou noir, ça ressemble à ça.
Ouais. On va y revenir, on va y revenir, parce que c'est vrai que de toute façon cette image reste une image historique évidemment dans l'histoire de l'astronomie. Alors Jean-Pierre Luminet, sur votre page Facebook, on pouvait lire vos commentaires justement au sujet de l'image de Sagittarius, dans lesquels vous étiez plutôt un peu critique, en tout cas un peu déçu. Hein. Vous disiez cette image n'est pas aussi sensationnelle que ça. Pourquoi alors?
Non, je ne veux absolument pas minimiser le travail extraordinaire qui a été fait. Non, mais c'est vrai que les communiqués de presse annonçaient quelque chose d'absolument sensationnel. Mais Frédéric a parfaitement raison de dire que finalement, cette similitude d'image, c'est sans doute la chose la plus significative, puisque cela démontre que les lois de la relativité générale appliquées à la description de l'environnement des trous noirs sont effectivement magnifiquement vérifiées. Ça fonctionne. Et sont notamment indépendantes de la masse des trous noirs. Je rappelle tout de même même que le trou noir de Messier 87 pèse, si l'on peut parler ainsi, 6 milliards et demi de masse solaire, donc il est 1500 fois plus massif, c'est-à-dire 3 ordres de grandeur plus massif que celui de Sagittarius A, étoile, 4 millions de masse solaire, ce qui montre bien, comme le prédit la relativité générale, que les environnements de trous noirs, courbure de l'espace-temps, structure des disques d'accrétion qu'il y a autour, ne dépendent pas de la masse du trou noir, c'est une forme d'invariance.
Donc ça valide la relativité générale.
Oui, alors tout de même une différence un petit peu anecdotique, c'est que lorsque l'annonce du 10 avril 2019 avait été faite, ou vraiment une annonce historique, parce que c'était vraiment la première reconstruction d'image d'un supposé trou noir géant, moi j'étais en fait perdu au fin fond de l'Ouzbékistan, donc je n'avais pas pu assister en direct à la conférence de presse ni répondre tout de suite aux questions des journalistes. Donc là au moins, jeudi dernier, j'étais là et j'ai pu effectivement commenter un petit peu à chaud. Peut-être un peu trop à chaud d'ailleurs dans mes commentaires Facebook, parce que c'est un petit peu le style de ces réseaux sociaux où on commente à chaud. Et puis après, le soir, j'ai commencé à étudier et à regarder les articles techniques qui sont sortis et qui, effectivement, montrent ce travail absolument exceptionnel qui a été fait par ces équipes.
Frédéric Gutt, une petite question pour Frédéric Gutt, parce que moi, je me suis dit, quand j'ai vu cette image jeudi, comment ils ont fait juste un petit point sur la méthodologie de faire une image comme ça. On est d'accord que c'est pas un seul instrument qui prend une photo et puis qui la reconstitue comme ça. C'est, vous le disiez tout à l'heure rapidement, c'est un ensemble de différents instruments qui devaient être, je crois, alignés le même jour, au même moment, avec la même météo. Vous pouvez nous dire juste comment elle a été faite, cette image, techniquement parlant ?
Alors oui, effectivement, ce que vous venez de dire, vous avez dit on va faire un petit point, et ça va être compliqué parce que c'est vraiment des méthodes d'observation qui sont extrêmement, extrêmement complexes. Mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on a une dizaine d'observatoires qui sont disséminés partout sur la planète. Il y en a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à Hawaï, en Europe, au Groenland, même sur l'Antarctique. Et tous ces observatoires doivent observer rigoureusement la même position dans le ciel, donc en l'occurrence la position du trou noir, rigoureusement en même temps. Donc il y a une synchronisation qui est faite avec des horloges atomiques sur chaque site. Et ensuite, les données vont être combinées ensemble. Alors c'est extrêmement technique, extrêmement mathématique. Elles vont être combinées pour recréer une image qu'aurait, au conditionnel, qu'aurait observé une seule antenne, mais une immense antenne dont le diamètre ferait la distance entre nos 10 antennes individuelles. Donc ici, là, on est en train de parler d'une distance qui est quasiment le diamètre de la Terre.
C'est 9000 kilomètres. C'est comme si on avait une antenne de 9000 kilomètres, en réalité.
Exactement. Hein, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'on arrive à observer des choses extrêmement, extrêmement fines. Parce que plus une antenne est grande, c'est vrai avec aussi n'importe quel télescope, plus son diamètre est grand, plus on arrive à voir des détails fins. On a une résolution angulaire extrêmement, extrêmement bonne.
Frédéric Gutt, on reviendra sur la méthodologie parce qu'elle est intéressante de voir comment justement tous ces instruments s'accordent au même moment pour photographier, en fait, pour avoir cette image. Jean-Pierre Luminet, quand même un mot, parce qu'en 1979, alors que vous étiez jeune chercheur au CNRS, vous avez proposé la première simulation au monde d'un trou noir. Votre image, à l'époque, a été publiée, elle a fait vraiment le tour du monde, elle a été très commentée, elle a apporté une pierre importante justement à l'édifice des trous noirs. Ça a été finalement quasiment la première image au fond, non ?
Ah, pas quasiment, oui, ça a été tout à fait la première simulation numérique. Alors non pas d'un trou noir vraiment, puisque le trou noir, par définition, comme vous le savez,
on peut pas le voir,
invisible. Hein. Donc c'est un environnement de trou noir entouré de structures brillantes que l'on appelle généralement des disques d'accrétion. Alors ça peut être des configurations un peu plus complexes que des disques plats. Ça peut être ce qu'on appelle des tores, des sortes de beignets, les donuts. Oui. On parle souvent les Anglo-Saxons. Mais donc ce sont des structures de gaz qui sont en rotation autour du trou noir, qui le gaz s'approche progressivement de la surface d'un trou noir, je rappelle, on appelle l'horizon des événements, d'où le nom du vaste projet d'observation qui s'appelle Event Horizon Telescope, le télescope capable d'observer le voisinage immédiat des horizons des événements de trous noirs. Et donc j'avais mis ça en équation à l'époque, c'était en 1978, et j'avais donc calculé les déformations d'image, puisque la lumière emprunte la courbure de l'espace-temps engendrée par le trou noir, elle crée une image primaire du disque d'accrétion, déjà déformée, une image secondaire encore plus déformée, et tout un ensemble d'effets. Par exemple, ce qu'on appelle l'ombre d'un trou noir, c'est-à-dire la partie, l'œil noir, si vous voulez, qui apparaît dans les deux images de Messier 87 et de Sagittarius A, c'est pas l'horizon des événements lui-même, c'est en fait un horizon élargi d'un facteur que j'avais d'ailleurs calculé dans mon article de 1979, d'un facteur à peu près 2,6, et c'est ça qu'on appelle l'ombre du trou noir. C'est en fait une sorte de mirage qui amplifie la partie obscure. Et donc cette ombre est entourée effectivement d'un disque d'accrétion et d'une structure plus fine et très intéressante qu'on appelle un anneau de lumière, photon ring en anglais. Et de fait, pour l'image de Sagittarius A, alors bon, j'ai beaucoup réfléchi depuis 2-3 jours sur les différences qu'il y a entre Messier 87 et Sagittarius A. D'abord, il faudrait dire pourquoi. En fait, toutes les données ont été acquises aussi bien pour Messier 87 que pour Sagittarius A. Elles ont été acquises lors des journées d'observation d'avril 2017.
Oui,
donc,
oui.
Il avait fallu déjà 2 ans de mise en forme et de mettre au point des logiciels de reconstruction d'images, etc. Extrêmement complexe pour obtenir cette fameuse première image télescopique de Messier 87 et de son environnement. Alors pourquoi a-t-il fallu 3 années de plus pour obtenir Sagittarius A ? Ben, la différence est une question de masse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Messier 87 est 1500 fois plus massif que Sagittarius A étoile, donc son disque d'accrétion, en tout cas la structure d'accrétion, elle est immense. Si on la mettait à la place du Soleil, elle engloberait pratiquement le système solaire, tandis que celle de Sagittarius A est beaucoup plus réduite, à la taille du trou noir, elle tiendrait à peu près dans l'orbite de la planète Mercure. Ce qui fait qu'un disque d'accrétion, donc en fait c'est du gaz en rotation rapide autour du trou noir, et d'ailleurs les parties les plus proches de l'horizon des événements circulent pratiquement à des vitesses proches de celles de la vitesse de la lumière. Mais dans une structure gigantesque comme celle de Messier 87, une rotation du gaz, donc des fluctuations de luminosité, peuvent prendre plusieurs jours. Tandis que pour Sagittarius A, cela prend à peine quelques minutes. Donc il y a un travail d'intégration beaucoup plus compliqué qui devait être fait pour obtenir des images pas trop floues précisément de Sagittarius A étoile, puisque effectivement c'est comme si vous essayez de prendre une photo instantanée d'une personne qui est en train de courir très rapidement, mais vous avez toutes les chances d'obtenir quelque chose de flou.
Voilà, donc il faut se cadrer. On y revient dans un instant, Jean-Pierre Luminet. Il y aura des questions également des auditeurs de la Terre au Carré qui arrivent pour parler trou noir et d'une autre en particulier.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait. Si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser-nous. Autour de ton cou, tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou, c'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ces écrous, c'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. son trou, trop de laisser faire, trop de laisser nous. Ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Ses luttes, ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sers.
Et la voix, celle de Stéphane Escher, à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Allez, on parle cet après-midi de l'image événement révélée la semaine dernière du trou noir de notre Voie lactée, Sagittarius A, avec nos invités Frédéric Guth et Jean-Pierre Luminet, tous les deux en duplex, l'un de Marseille, l'autre de Grenoble. Frédéric Guth, alors décrivez-nous ce qu'on voit. Parce que comment est-ce qu'on interprète finalement ce donuts là? Parce que je trouve que l'image est quand même pas mauvaise. Ce donuts orange sur fond noir, qu'est-ce qu'on voit exactement alors sur l'image?
Alors comme... excusez-moi. Comme Jean-Pierre l'avait dit juste avant, le trou noir lui-même, par définition, on ne le verra jamais, puisque rien ne peut s'en échapper, pas même de la lumière. Pour voir quelque chose, il faut quand même qu'il y ait au minimum un photon de lumière qui parte de cet objet et qui arrive chez nous. C'est pas le cas. Donc on ne le verra jamais. Le trou noir, c'est en fait la zone noire centrale dans l'image. Mmh. Et toute l'idée de ces observations, c'est que on a réalisé au fil des années et des décennies que le trou noir, on allait pouvoir le voir, enfin détecter sa présence par contraste sur un fond brillant. On voit l'ombre du trou noir, c'est le terme qui a été utilisé, c'est peut-être un peu trompeur, mais disons la silhouette du trou noir sur un fond brillant. Donc c'est exactement ce qu'on observe, on voit cette espèce de ronce noire centrale, c'est là qu'est niché le trou noir, et c'est entouré de la lumière, de l'environnement proche du trou noir, donc le disque d'accrétion, la matière qui tourne autour du trou noir, qui à un moment ou à un autre, une partie d'entre elles va être avalée par le trou noir. Mais c'est ça qui est l'émission qu'on observe avec cette couleur jaune-orangée sur les images.
Et les taches lumineuses qu'on voit justement sur l'anneau, c'est quoi exactement alors?
Alors voilà, ça c'est une très bonne question. Dans M87, il y avait une partie qui était plus lumineuse qu'une autre, et ça c'était interprété comme un signe de rotation du trou noir. La partie qui vient vers nous apparaît plus lumineuse, plus brillante, donc une intensité un peu plus forte. Ici, vous voyez que on a un peu l'impression que c'est le cas, mais c'est beaucoup moins clair, parce que c'est pas une partie de l'anneau qui est plus brillant, mais il y a deux, voire trois petites régions.
Oui.
Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder de plus près. C'est clair qu'on est en train d'observer le même phénomène, mais on l'observe moins bien parce que l'image est un peu de moins bonne qualité, comme on avait dit tout à l'heure.
Ouais.
Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder de près dans les prochaines images qui vont être réalisées de ces objets.
Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu peut-être l'image, avoir les deux images, celle de 2019 et celle donc de la semaine dernière, on les a mis sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré. Vous pouvez aller en story sur Instagram de l'émission. Vous verrez les deux images pour comparer, évidemment. Camille, des questions d'auditeurs.
Oui, Pascal nous écrit, c'est fabuleux, notre galaxie, la Voie lactée, a en son centre un trou noir qui absorbe toutes les étoiles, qui s'engouffre en spirale en lui, comme de l'eau dans un siphon. Est-ce que c'est pareil pour toutes les galaxies analogues, Frédéric Guth?
Alors, on pense que oui. D'accord. On n'a pas encore une preuve formelle, mais il semble bien, toutes les observations semblent montrer que quand on commence à chercher, on voit au centre de chaque galaxie un trou noir supermassif. D'accord. Alors le terme supermassif, il est un peu grandiloquent comme ça. C'est parce que on est en train de parler de trous noirs qui font quelques millions jusqu'à quelques milliards de masse solaire.
Donc c'est justement, je crois que j'ai vu passer une interview, une présentation, je crois, de la NASA qui explique que le trou noir, donc M87, aurait la taille de la Lune. Hein, il serait, si on devait comparer, pas la taille de la Lune, mais on imagine, il aurait la taille de la Lune et le trou noir là de la Voie lactée aurait la taille d'un donut sur cette même Lune. C'est ça pour comparer les deux ordres de grandeur?
Non, ça c'est pas tout à fait ça. Donc il y a typiquement un facteur 1000 à 1500 de différence dans la taille entre les deux trous noirs. En fait, parce que leur masse, Leurs masses ont une différence d'un facteur 1000 à 1500. Et en fait, la taille du trou noir est directement proportionnelle à la masse.
Mais sauf que, effectivement, alors, cette image, M87 est beaucoup plus gros que notre propre trou noir.
Oui, voilà, M87 est à peu près 1000 fois ou 1500 fois plus gros, mais il est aussi 1000 ou 1500 fois plus loin. Et du coup, vu depuis la Terre, on le voit avec à peu près la même taille.
Jean-Pierre Luminet, vous qui êtes musicien, ça va vous intéresser puisque vous l'avez certainement vu passer, la NASA a procédé à la sonification d'un trou noir. Alors, il ne s'agit pas des deux dont on parle, hein, c'est un autre trou noir. Il s'agit, alors, il faut le préciser, d'une interprétation de données astronomiques en son qui a été réarrangée pour l'oreille humaine. Alors, on va l'écouter, Jean-Pierre Luminet, puis vous le commenterez juste après. Voici donc le trou noir, le son du trou noir situé au centre de l'amas de Persée et dévoilé la semaine dernière. C'est un petit peu lugubre.
Hein. Et la tête qui tourne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Luminet ?
Oh, ben la NASA s'amuse beaucoup avec ce genre de reconstruction. Bon, ça intrigue l'oreille, mais ce sont vraiment des métaphores qui sont quand même assez éloignées de la réalité astrophysique.
Le son ne peut pas se propager dans le vide comme ça, c'est pas possible de toute façon.
Comment ?
Le son ne pourrait pas se propager de cette façon-là, on ne pourrait pas l'entendre.
Ah non, c'est clair que le son ne se propage pas dans l'espace, donc ce sont des reconstructions. De la même façon qu'il y a une trentaine d'années, j'avais participé à la conception d'une œuvre musicale faisant intervenir des rythmes de pulsars, oui. Des sortes de tic-tac d'horloge, mais ce sont des reconstitutions et des transpositions. Pour en revenir un bref instant sur ces histoires de trous noirs massifs et supermassifs et sur leur taille,
oui.
La taille de Messier 87, c'est 40 milliards de kilomètres. Donc, ça n'a rien à voir avec la Lune, effectivement. La taille de Sagittarius A, c'est 25 millions. La taille, c'est-à-dire le diamètre de l'horizon des événements, c'est 25 millions de kilomètres. Sur les masses de trous noirs, ce qu'on appelle les trous noirs massifs ou géants, ça commence à peu près au million de masses solaires. Il faut dire quand même quelque chose, c'est qu'on pense qu'il y a des trous noirs de toute taille et de toute masse. La plupart des trous noirs sont d'origine stellaire. Ils se sont formés par l'effondrement du cœur d'étoiles massives, leur masse ne dépasse pas, en général, 50 fois grand maximum la masse du Soleil. En revanche, au centre, donc ces trous noirs stellaires sont très nombreux, il peut y en avoir peut-être 10 millions rien que dans notre galaxie. En revanche, au centre de quasiment chaque galaxie, comme l'a dit Frédéric, il y a effectivement des trous noirs géants dont les masses vont de 1 million de fois la masse du Soleil pour les plus petits, donc 4 millions pour le nôtre, mais jusqu'à le record actuel, c'est détenu par un trou noir au centre d'une galaxie très lointaine qui s'appelle Holm, dont la masse atteint 50 milliards de fois la masse du Soleil. Ouais. Donc vous voyez effectivement un intervalle de masse absolument extraordinaire. Et comme le disait Frédéric, les masses très différentes de Messier 87 et de Sagittarius A sont compensées par leurs distances qui sont également très différentes, ce qui fait qu'effectivement, en projection sur le ciel, leur diamètre angulaire apparent, c'est du même ordre, ouais. De l'ordre de la taille d'une orange placée sur la surface de la Lune, ce qui donne une idée, effectivement, de la prouesse technologique de l'Event Horizon Telescope.
Et nous y reviendrons dans un instant. On verra aussi avec vous, Frédéric Gut, quelles seront les suites données à cette image, hein, ce qu'on peut attendre juste après. Et bien sûr, vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, on passe au vert, Camille.
Et je reviens aujourd'hui sur un sujet qu'on a abordé il y a quelques jours lors de nos émissions dans la Drôme. Nous étions chez Cyril Vignon, maraîcher bio, quand soudain...
C'est quoi la grosse usine juste à côté de nous, derrière vos serres ?
C'est une usine de chips.
Une usine de chips à moins de 100 mètres de ses serres, éclairée toute la nuit.
Oui, ça pose un problème, alors, ça dérange les chauves-souris, parce que nous on a beaucoup de chauves-souris dans le, comme c'est des vieux bâtiments qui sont là, et qui sont utiles pour nous pour manger les insectes nuisibles. Et deuxième chose, moi j'ai de plus en plus de soucis de chenilles, puisque les papillons nuisibles vont se reproduire sous les lampadaires. J'ai de plus en plus de problèmes à cause de ça.
Un peu désemparé, Cyril Vignon, face à cette lumière qui perturbe donc d'un côté les chauves-souris, excellent allié pourtant dans son travail, et attire malheureusement les nuisibles, à savoir donc des papillons de nuit tuta absoluta, dont les chenilles font ensuite de gros dégâts dans les tomates. Et il a bien vu les différences entre ces plantations côté usine et celles à l'autre bout de la ferme. Alors, l'usine de chips en question, c'est celle de la marque Bretz, basée en Bretagne, mais qui a ouvert ce site, juste à côté de chez Cyril Vignon, il y a 8 ans. J'ai donc contacté le patron de Bretz, Laurent Cavard, pour lui demander pourquoi les lumières restaient allumées toute la nuit.
C'est une usine, d'après vous. Qu'est-ce qu'on fait dans une usine? Ben, on travaille, et puis on travaille en 3-8. Donc en fait, il y a du personnel dans l'usine en permanence qui travaille, en particulier qui va à l'extérieur, pour tout ce qu'on appelle chez nous la réception pommes de terre, hein, puisqu'on... On a un stockage de pommes de terre et on amène dans l'usine. Donc, en fait, il faut qu'on éclaire le site extérieur pour des bonnes conditions de travail et notamment de sécurité des personnes.
Lumière au nom de la sécurité qui figure aussi dans le code du travail, je le précise. Les espaces extérieux doivent être éclairés à 40 lux minimum, dit le décret. Ça équivaut à une rue bien éclairée, pour vous donner une idée. Il y a aussi, ajoute Laurent Cavard, des enjeux de sécurité pour les éventuelles intrusions, hein, en ce qui concerne la sécurité alimentaire en particulier. Réaction de Cyril Vignon, que j'ai rappelé, du coup. Soupir.
Si c'est la sécurité, c'est la sécurité. Après, quelqu'un qui sort, il peut appuyer sur un interrupteur ou il peut y avoir un truc automatique qui s'allume quand il y a quelqu'un dehors, quoi. Voilà, sans que ce soit allumé tout le temps. Après, c'est allumé aussi le week-end. Hein. Il ne travaille pas le dimanche, il ne travaille pas le jour de Noël. C'est allumé tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. Donc
voilà, Laurent Cavard, PDG du groupe Alto, qui possède Bretz, estime que des efforts ont déjà été faits et avance là encore ses arguments.
Alors, on éclaire du haut vers le bas. Vous avez remarqué aussi que les couleurs, les spots sont orangés. On n'est pas sur de la lumière blanche pour réduire la pollution visuelle, mais c'est pas pour le plaisir d'éclairer l'usine.
Installer aussi l'usine se justifie-t-il dans une zone spéciale pour les bâtiments industriels. Tout cela dit, les conséquences de la pollution lumineuse n'en sont pas moindres.
De toute façon, c'est une pollution. On met une lumière qui n'a pas lieu d'être à un endroit, ça va avoir des impacts. Et alors, qui plus est, quand c'est toute la nuit, ça va être quand même une perturbation assez forte.
Alors, c'est Léa Mariton qu'on entend. Elle est doctorante en biologie de la conservation à Sorbonne Université et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle publiait en avril, figurez-vous, une étude sur les conséquences de cette pollution sur des chauves-souris pourtant tolérantes à la lumière, la sérotine commune.
Ce que j'ai vu, c'est que finalement, en fait, son activité, elle était plus faible. Et en plus, j'ai montré que ça décalait leur activité au cours de la nuit. Et ça va pouvoir en fait avoir plein d'impacts en cascade, notamment les désynchronisant, par exemple, avec les insectes dont elles se nourrissent.
C'est un exemple, mais animaux comme végétaux se sont toujours de toute façon calés sur l'alternance jour-nuit naturelle.
Et donc le fait de mettre cette lumière qui est artificielle, ça va pouvoir dérégler tous ces fonctionnements. Et de fait, ça impacte vraiment tous les taxas, c'est-à-dire de mes espèces donc nocturnes que sont les chauves-souris. Il y a même des espèces diurnes qui vont du coup être un petit peu perdues sur quand est-ce que la nuit tombe, des oiseaux qui vont chanter plus tard.
Des conséquences aussi sur nous, hein, humains. Le fabricant de chips est prêt à chercher d'autres solutions. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.
S'il y a des technologies un peu intelligentes pour améliorer, je suis pas con du tout. Et objectivement, je suis tout sauf contre les problématiques dans environnement, vous savez, on est labellisé RSE et on fait des chips bio. Hein, donc, Monsieur Vignon, je l'invite à aller rencontrer le directeur de l'usine, hein, qui s'appelle Jean-Yves Robert, pour échanger sur le sujet, parce que je crois pas qu'il soit venu s'en plaindre directement.
Eh ben si, pourtant, il l'a déjà dit, Cyril Vignon, quelques temps après l'ouverture de l'usine.
Je lui ai parlé directement et je lui ai exposé le problème. Il m'avait répondu la même chose qu'il lui a répondu à vous, c'est-à-dire que c'était la sécurité, qu'il ne pouvait pas faire autrement.
Bon, là, il y a visiblement un petit peu branle-bas de combat chez Bretz depuis quelques jours.
Jean-Yves est au courant de la situation, puis on va regarder s'il y a des choses à faire, qu'on puisse travailler sur la question. Puis après, on en rediscute et on trouve des solutions ensemble.
Cyril Vignon est prêt à les accueillir, lui, mais dans sa ferme.
C'est pas à moi de me déplacer. Voilà, s'il veut venir me voir, moi, je suis pas un sauvage. mais voilà.
Bon, c'est pas encore gagné cette histoire, hein, mais on va suivre ce qui se passe en espérant que les choses avancent, évidemment, pour tout le monde.
Oui, surtout que c'est vraiment pas loin. La ferme est vraiment juste à côté.
Mais je précise que c'est côté Ardèche, officiellement, l'usine, tandis que la ferme est dans la Drôme.
Voilà, c'était Camille Passauvert que vous pouvez réécouter avec ces histoires de chips sur franceinter.fr.
Frédéric Gutt, est-ce que la pollution lumineuse, en l'occurrence, là, sur les observations de trous noirs dont vous nous donniez rapidement la méthodologie tout à l'heure, est-ce que cette pollution lumineuse, y compris dans l'espace a pu poser des problèmes pour réussir à capter des images, en tout cas ce que vous en avez ressorti.
Alors non, mais il y a un mais. Alors d'abord la pollution lumineuse que vous venez de mentionner là, c'est la pollution, c'est de la lumière visible. Donc nous, les observations qui ont eu lieu, c'est des ondes radio. Donc c'est des longueurs d'onde totalement différentes. Et donc la pollution dans les ondes visibles ne nous affecte absolument pas.
Et est-ce qu'elle peut venir perturber les ondes radio, ouais?
Non. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a l'équivalent, si vous voulez, mais une espèce de pollution dans les ondes radio. Et là, effectivement, pour l'instant, tout se passe bien pour nous, mais on commence à avoir quelques signaux un peu inquiétants qui apparaissent à l'horizon, quelques lumières qui passent à l'orange. En l'occurrence, il y a des gros projets de constellations de satellites, c'est le terme qui est utilisé pour dire des projets de milliers de petits satellites. Vous savez qui sont destinés à
couvrir la planète, hein.
À couvrir la planète, notamment à permettre l'accès à Internet dans toutes les zones, même celles qui ne sont pas couvertes par des émetteurs traditionnels sur le sol. Et ça, il y en a certains de ces satellites qui vont fonctionner à des longueurs d'onde qui commencent à potentiellement être problématiques pour les observations de radioastronomie. Pas spécifiquement le HT, hein, toutes les observations de radioastronomie millimétriques. Donc voilà, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ce qui se passe de ce côté-là.
Ouais. EHT Event Horizon Telescope. Allez, on y revient dans un instant avec l'image du trou noir de notre Voie lactée.
The silence, it's all said and done. You need to welcome your intuition. Make room for your own subconscious mind. The liberty of saying nothing, but also really meaning it. Words are my refuge, silence is scary. Welcome your words and your intuition to own the silence.
Stop, c'était Charlotte Adigeri, Bolis Popple à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Père, croyez-vous aux fantômes ?
Oh non, pas aux fantômes de type humain. Cela, je n'y crois pas du tout. Mais lève les yeux, mon garçon, et tu verras que le ciel en est rempli.
Si l'on pouvait survivre à la traversée d'un trou noir, on émergerait peut-être dans un autre lieu et un autre temps de notre propre univers, transgressant ainsi le premier commandement de la relativité. Tu ne voyageras pas plus vite que la lumière. Dans l'espace, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Mais l'espace n'est pas complètement vide. Il peut s'agrandir, rétrécir, se déformer. Et quand cela se produit, le temps se déforme également.
Extrait de la série Cosmos présentée par Neil deGrasse Tyson. On parle cet après-midi de l'image du trou noir de notre galaxie. Et justement, Camille, à ce sujet, il y a une question d'auditeur.
Oui, Marc voudrait savoir ce qui se passe une fois que le trou noir a absorbé la matière, Jean-Pierre Luminet. Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on pourrait le savoir un jour ?
Non, on ne le sait pas, puisque tout ce qui franchit l'horizon des événements est inaccessible à l'observation astronomique directe. Donc, nous ne pouvons y envoyer pour l'instant que nos équations, qui sont les équations de la relativité générale.
C'est déjà pas mal,
sauf que les équations ont leurs limites, c'est-à-dire que si on les extrapole jusqu'au bout, on aboutit à une sorte d'absurdité physique qu'on appelle une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire une sorte de nœud qui serait au fond du trou noir, un point de densité infinie. Et ça, les physiciens pensent que ce n'est pas possible, donc ça marque les limites de la relativité générale. Alors heureusement, il y a d'autres, il y a quelques alternatives proposées également d'ailleurs par la théorie de la relativité générale, qui restent hypothétiques, mais qui sont assez fascinantes, c'est l'hypothèse du trou de ver. Donc l'idée que le fond du trou noir n'est pas nécessairement bouché, obstrué par une singularité qui écraserait toute forme d'énergie et de matière, mais serait une porte de passage vers une autre région de l'espace-temps. Alors attention par rapport au petit extrait de la série Cosmos qu'on a entendu, qui raconte, excusez-moi, un petit peu n'importe quoi. On ne transgresse absolument pas la loi absolue d'invariance de la vitesse de la lumière. On emprunte des raccourcis, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des distorsions de l'espace et du temps qui permettrait éventuellement, en empruntant un trou de ver pour aller d'un point A à un point B, au lieu d'être dans l'espace normal où il faudrait effectivement, toujours limité par la vitesse de la lumière, des temps extraordinaires, très largement supérieurs évidemment au temps que peuvent se permettre les voyages interstellaires, eh bien on aurait des raccourcis. Utilisant effectivement ces distorsions extrêmes de l'espace et du temps. Mais je répète, ça reste une hypothèse certes fascinante et qui a beaucoup inspiré la littérature et le cinéma de science-fiction. On aimerait bien que ces trous de ver existent, parce que pour l'instant c'est la seule façon théorique en tout cas que l'on puisse imaginer de pouvoir sortir un jour de notre système solaire pour explorer les étoiles lointaines, mais ouais. ça reste une hypothèse.
Frédéric Guth, combien d'observatoires ont été présents justement pour cette photo de notre trou noir ? C'était 11, c'est ça ?
Alors le réseau EHT a effectivement 11 observatoires participants. Alors évidemment, le problème quand on observe, c'est qu'il faut qu'il fasse beau, que la météo collabore sur ces 11 sites différents. Donc il y a un facteur chance. Et toutes les observations qui sont faites n'ont pas eu suffisamment de chance. Donc parfois, il n'y a que 7, 8, oui. 9... télescope.
Et Anthony et Karim nous demandent sur franceinter.fr si James Webb, par exemple, et Hubble pourraient venir prêter un petit peu main forte à ces 11 terriens.
Non, alors absolument pas, parce que ce sont des observatoires extrêmement performants, extrêmement extraordinaires, mais qui fonctionnent à des longueurs d'onde totalement différentes. Vous voyez, en astronomie, on a des instruments qui essayent d'observer les sources dans le ciel dans toute la gamme de fréquences possibles, depuis les rayons X, ultraviolets, visibles, infrarouges, ondes millimétriques, ondes radio, etc. Parce que toutes ces informations sont extrêmement complémentaires et on a besoin de toutes ces observations pour comprendre les sources. Mais chaque longueur d'onde nécessite une technologie très particulière, des instrumentations très particulières, etc. Et donc les télescopes ou les radiotélescopes sont spécialisés dans un domaine de longueur d'onde bien précise.
Et Frédéric,
ces histoires de HT, on parle de longueur d'onde millimétrique, des micro-ondes.
Et on peut rappeler quand même que la France possède le radiotélescope le plus performant de l'hémisphère nord à Bure, dans les Hautes-Alpes. Hein. Il a été ajouté récemment d'ailleurs dans l'ensemble de ces radiotélescopes, c'est ça ?
Absolument. Donc les observations EHT qui ont été publiées là datent, comme ça a été dit tout à l'heure, de 2017 déjà en fait. Il a fallu 5 ans pour vraiment traiter toutes ces données, les analyser, les publier aussi. Il y a l'écriture des articles scientifiques, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce sont vraiment des gros articles extrêmement complets.
L'image était prête depuis un an, mais en fait les articles n'étaient pas écrits. C'est ça aussi qui explique
les articles ont été écrits dans les dernières années. Ils ont été acceptés. Il y a seulement accepté, ça veut dire vraiment que ça passe par un processus de révision par d'autres scientifiques qui lisent les articles pour les accepter, les refuser, corriger, etc. Ouais. Donc c'est la procédure habituelle des publications scientifiques. Et donc ces articles ont été acceptés il y a seulement quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé après de faire une communication.
Pourquoi l'image du trou noir de notre galaxie était plus longue à proposer que celle d'M87 en 2019 ? Alors c'est quoi la différence fondamentale ?
C'est ce que Jean-Pierre avait mentionné tout à l'heure, c'est que le trou noir de notre galaxie est suffisamment proche pour que on arrive à voir en fait la matière bouger autour.
À combien d'années-lumière justement demande Jean-Paul sur franceinter.fr?
À 27 000 années-lumière. Ça veut dire que ce qu'on observe, ça a été émis il y a 27 000 ans. Et donc le problème, c'est que pour faire une image, nous, on a besoin d'observer pendant toute une nuit. Et pendant la nuit, on voit déjà qu'il y a des modifications dans l'émission. Donc ça, c'est embêtant. parce que ça rend tout un peu flou. Et donc, il a fallu corriger de tout cela. Il a fallu mettre au point des algorithmes spécifiques, des logiciels spécifiques pour prendre en compte ces modifications et pouvoir combiner de manière correcte toutes ces données. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps.
Jean-Pierre Luminet, est-ce qu'avant cette image-là de Sagittarius, on doutait encore que, justement, Sagittarius puisse avoir ce statut de trou noir? Ou est-ce qu'on le savait quand même déjà avec beaucoup de certitude?
Peut-être que le terme de certitude, il est un petit peu trop fort, mais disons que les alternatives au trou noir, ce sont des objets qui ne sont pas interdits par les lois de la physique, mais qui sont même plus exotiques en fait que l'hypothèse des trous noirs. N'oublions pas, par exemple, que l'un des très récents prix Nobel de physique, il y a 2 ans, a été attribué à Roger Penrose, qui était un fameux théoricien anglais qui avait prédit le caractère inéluctable de la formation des trous noirs dans les lois de la relativité générale. Et il y a 2 astronomes qui suivaient depuis pratiquement 30 ans le mouvement d'étoiles proches du centre galactique qui gravitent autour de ce point invisible, mais à des vitesses telles que cela permet précisément de reconstituer la masse invisible qui est responsable de ces mouvements. Mmh. Et la masse qui était déjà déduite était de 4 millions de fois la masse du Soleil dans un volume si petit qu'il est très difficile d'imaginer un autre objet proposé par la physique connue qu'un trou noir entouré de son horizon des événements. Et là, les observations de l'Event Horizon Telescope confirment tout à fait ce diagnostic sur la masse, les reconstitutions. Parce que, comme le dit Frédéric, il y a eu des milliers d'images qui ont été prises, mais après il fallait comparer ces images pour pouvoir les interpréter avec un catalogue de dizaines de milliers, peut-être même plusieurs millions de simulations numériques pour pouvoir trier effectivement et identifier, définir les paramètres, notamment la masse du trou noir. Eh bien, ça confirme tout à fait que c'est un objet qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, avec un certain angle d'inclinaison, une certaine quantité de rotation, ça c'est très important, ce qu'on appelle le spin des trous noirs. Les trous noirs sont en rotation sur eux-mêmes, et également ce qu'on appelle le taux d'accrétion. Alors, si vous me permettez brièvement une question d'auditeur à présenter un petit peu le cliché du trou noir géant, ogre, qui va absorber, déchirer, déchiqueter des étoiles. Oui. C'est vrai pour des trous noirs gigantesques, mais il faut savoir que le trou noir de notre galaxie, il est quasiment anémique, c'est-à-dire que le taux d'accrétion, la quantité de matière qui tombe dans ce trou noir, c'est de l'ordre du 100 millionième de masse solaire par an, ce qui est extrêmement faible.
Donc c'est pas un gros mangeur.
Contrairement à Messier 87 qui avait une énorme structure d'accrétion.
Ouais. Alors justement, donc ça veut dire, Jean-Pierre Luminet, en un mot, nous demande Nathalie ou Mickaël par exemple, que le trou noir, ce trou noir-là en tout cas, n'engloutira pas notre système solaire, voire notre univers tout entier.
Ah non, certainement pas. D'accord. Mais même, il n'engloutira même pas les étoiles les plus proches qui gravitent autour de lui et qui donc, je répète, sont observées depuis 30 ans. Alors, vous savez, on mettrait un trou noir à la place du Soleil, un trou noir de la même masse que notre Soleil, à la place du Soleil, l'orbite de la Terre ne bougerait pas d'un millimètre.
Ah ouais. Ça nous rassure.
C'est vrai qu'il simplement, il y aurait plus de jour et plus de nuit.
Ah bon, on va dormir tranquille, ce qui est déjà pas mal.
Claude nous écrit sur franceinter.fr toujours, arrêtez de parler d'images. Ces mesures sont évidemment remarquables, mais leur combinaison graphique n'est pas une image sensu stricto sensu, c'est une représentation graphique de résultats d'observation de radiotélescopes remarquablement synchronisés, rien de plus. Alors Frédéric Gut, juste pour être clair, ça n'est pas une image, mais si on pouvait voir ce trou noir de nos yeux, est-ce qu'on verrait comme ça cet amas orange autour ou pas du tout?
Alors oui, voilà. Alors c'est une question de définition de ce qu'on appelle une image. C'est pas une photo qui a été prise. Hein. C'est une image qui a été reconstruite mathématiquement à partir des observations de nos radiotélescopes. Mais effectivement, si notre œil était sensible aux longueurs d'onde millimétriques, c'était pas le cas, mais s'il l'était, et si on avait la résolution angulaire nécessaire, bah oui, on observerait ça.
Allez, on se retrouve dans un instant, on verra ce qu'on pourrait même avoir de mieux que cette image dans quelques années, si on rêve un petit peu. Ce sera avec vous, Jean-Pierre Luminet et Frédéric Gut.
J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison, si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance, et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi, si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si on trace un trait, un point dans notre espace, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Ton invitation, Louise Attaque.
France Inter, la Terre. Au carré.
Encore quelques minutes autour du trou noir de notre galaxie Sagittarius A étoile. Alors, Frédéric Gut, dites-nous, après la photo, est-ce qu'on pourrait attendre...
Non, l'image, Mathieu.
Après, oui, l'image. Est-ce qu'on pourrait attendre le film?
Alors, c'est un objectif, et j'espère qu'on y arrivera dans les quelques années qui viennent. J'essaye d'être suffisamment flou pour ne pas m'engager trop fort, parce que c'est extrêmement ambitieux. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'imaginer ça? C'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que depuis 2 ans maintenant, on a rajouté dans le HT un très gros instrument qui s'appelle Noema, qui est situé dans les Alpes françaises, sur le plateau de Bure, c'est près de Gap, dans le massif du Dévoluy, et qui est extrêmement puissant. C'est directement l'instrument le numéro 2 dans l'ensemble du réseau EHT, après un réseau qui est au Chili, qui s'appelle ALBA. Alors le fait que on a vraiment un instrument beaucoup plus puissant maintenant, je parle de l'ensemble de l'EHT, ça nous donne espoir qu'on va réussir vraiment à améliorer la qualité des images. Alors les observations ont peut-être déjà eu lieu, elles ont eu lieu en 2021 et 2022, en fait c'était il y a 3 semaines de cela. Je dis peut-être parce qu'elles n'ont pas encore été analysées, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, on a bon espoir de réussir à avoir des images de meilleure qualité. Et l'un des objectifs, comme vous le disiez, c'est d'essayer de faire une image non pas intégrée pendant toute la nuit, comme c'est le cas maintenant, mais une série d'images qui permettrait de voir les mouvements de la matière autour du trou noir.
Aïe, aïe.
Alors le mot film est peut-être un peu ambitieux. Je dirais plutôt une animation. Peut-être que si on arrive à avoir 5-6 images dans la nuit, ça serait déjà remarquable.
Ok.
Mais c'est vraiment un objectif pour les 5 années qui viennent, oui.
Et une petite question, là, vous parlez de la puissance des instruments. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur les gens qui vivent pas très loin, là, en l'occurrence du plateau de Bure dans les Alpes, ou pas du tout?
Pas du tout, du tout, du tout. Quand j'utilise le mot puissant, c'est un peu ambigu, effectivement. En fait, ça veut dire que ce sont des instruments extrêmement sensibles. Mais les radiotélescopes, en fait, ne font que capter des ondes qui viennent du ciel. Ils n'en émettent absolument pas. Donc, il y a zéro risque de quelque nature que ce soit pour les gens qui travaillent autour, qui habitent pas loin, etc. Ouais.
Allez, Jean-Pierre Luminet, pour terminer, il nous reste vraiment 1 minute, ça va être très rapide. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, quand même, en voyant ces deux images là, 2019 et la semaine dernière de ces deux trous noirs, qu'est-ce que ça provoque chez vous?
Bah, une forme de ravissement, de confirmation de ce que je pensais déjà.
d'émotion aussi.
Non,
quand même.
Ce que je voudrais dire, c'est que dans le réseau étendu, l'un des espoirs, c'est également non seulement de l'étendre géographiquement, donc pour améliorer la résolution, mais également de baisser également légèrement la longueur d'onde d'observation, ce qui permet également d'améliorer la résolution. Et ce qui fait que l'un des espoirs, au-delà effectivement peut-être de pouvoir prendre un film de Messier 87 ou de Sagittarius A plus précisément, puisque lui est beaucoup plus variable, c'est d'observer d'autres trous noirs qui sont actuellement hors de portée parce qu'ils sont, leur diamètre angulaire est encore plus petit, mais en améliorant la sensibilité, on pourrait observer d'autres trous noirs géants.
Lequel serait en priorité à votre avis? Voilà. Lequel serait intéressant? Lequel serait en 5 secondes?
La priorité serait d'observer, les deux sont importants, mais observer plus grand nombre de trous noirs permettrait de vérifier toujours mieux.
Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Pierre Luminet, Histoire extraordinaire et insolite d'astronome, c'est sorti chez Buchet-Chastel en mars, et puis donc à l'automne, vous allez publier Les trous noirs en 100 questions. Merci également à vous, Frédéric Gut, et aux équipes de France Bleu Grenoble.